Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Raïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Durand, prise de son assurée ce soir par Élise Le et réalisation Philippe Baudouin. Et autour de moi ce soir, Sally Bone, c'est une première dans cette émission. Bienvenue à vous, Sally.
Merci.
Annaëlle Pijat et Corinne Rondeau. À notre affiche, Rodin, dessiné, découpé, c'est au musée Rodin à Paris. L'art du chantier, construire et démolir du 16e au 21e siècle. Et c'est à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'explication des œuvres d'art d'Heinrich Wölfflin aux éditions L'Écarquillé. Et joie, un petit salon de Lucille Como consacré aux expositions 100% féminine. Je ne connais pas encore la question qui sera la chute de cette introduction au petit salon. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le film Border d'Ali Abbasi qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute avec Rodin, dessiné découpé, à voir jusqu'au 24 février au musée Rodin à Paris. Les commissaires en sont Catherine Chevillot et Sophie Bias Fabiani. Scénographie signée Loretta Gaitis et Savannah Lemonnier avec les lumières d'Abraxas Concept. Rodin, qui disait que de ses dessins qu'ils étaient la clé de son œuvre, et pour la première fois, le musée Rodin présente l'intégralité des figures découpées de l'artiste, une technique qui à l'époque était plutôt d'avant-garde, qui lui permet de tester dans l'espace des dessins de nus aquarellés ou d'assembler ces figures découpées pour en faire de nouvelles compositions. Enfin, pas mal de façons d'utiliser ces figures découpées, nous allons en parler. Bien ça pour entrer au musée Rodin. Musée, nous suivons les pas de Corinne Rondeau pour commencer.
Avec plaisir. Alors ça commence par un couloir.
Non, il y a des marches, non
hein?
Il y a des marches d'abord.
Ah non, 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 du tout. Non. Alors non, oui. Alors ces collages. J'ai une grande faiblesse pour ces petites feuilles de papier, disait Rodin, moi aussi, on va dire. Alors, ça commence par une toute petite, un petit découpage d'un Dionysos.
On peut refaire l'émission un peu plus tard, si
oui, vous préférez. Oui, je crois bien, oui. Et alors, c'est assez beau parce qu'il n'y a rien, juste un Dionysos qui est découpé comme ça au centre d'une feuille jaunie, on va dire, et puis un papier épais. Et c'est assez beau parce que ça fait déjà fresque, enfin ça fait relief. Non, il y a quelque chose du volume malgré qu'il y ait ce papier à plat. Et puis ensuite, on commence avec d'autres travaux sur des masques. Enfin, il y a quelque chose sur la représentation, le masquage qu'on va retrouver avec des photographies plus tard, où on aura déjà vu ça dans d'autres expositions de Rodin, à savoir comment il va redistribuer finalement la question du volume à partir de la photographie, du papier, du découpage, etc. Donc là, l'exposition, c'est grosso modo comment Rodin va utiliser la ligne du corps, l'isoler, la reproduire avec du calque ou à faire en série, puis ensuite la découper, puis ensuite la redistribuer. Donc toute l'exposition, grosso modo, c'est des séries des variations, on va dire, comme il l'a fait avec les abattis en sculpture. Enfin, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de nouveauté en ce sens. Ce qui est assez beau, c'est de voir des séries c'est de voir aussi les découpages. Moi, j'ai apprécié, je dirais, à la fois ce couloir qui nous amène entre des figures aériennes, des démons, des ombres, qui sont des figures un peu volantes, puisqu'il y a des séries thématiques aussi. Alors, donc, on va retrouver un certain nombre de choses qui reviennent au cours de l'exposition. Figures isolées, figures volantes, figures aquatiques, je ne sais plus trop quoi. Donc, l'exposition se fait par des petites thématiques. Mais ce qui est, je vous dirais, à la fois, bon, enfin, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce rapport entre la ligne, le contour et la découpe, parce que le mec, il va franco. Et ce qui est absolument admirable, c'est qu'entre la ligne et la découpe, il y a une égalité entre les deux actions. Et à ce moment-là, on voit toute l'ondulation qu'il produit dans son travail d'agencement du dessin. Ce qui est assez remarquable, puisqu'en fait, quand on a des aquarelles avec des nus dessinés par Rodin, c'est exactement la même chose. Donc, il cherche, en fait, une ondulation entre la découpe et la ligne. De la même manière où il y a quelque chose de très ondulatoire dans la recherche du volume et de la combinaison dans la sculpture chez lui.
Premier regard de Sally Bonne à présent sur cette exposition du musée Rodin.
Oui, alors ces gestes de découpe qui sont produits sont assez beaux, effectivement, de manière assez différente, parce qu'il y a ces premiers dessins qui sont des dessins dits noirs, hein, toutes les figures noires du long couloir, qui sont moins importants en termes de volume que toute la suite. Des figures isolées, aquarellées, qu'il a en termes de volume sont bien, bien plus importants. Ce qui est parfois troublant et en même temps intéressant, c'est de voir que ce geste de découpe, il est différent selon la volonté et qu'il y a des gestes de découpe qui sont pas équivalent. Il y a le ciseau lui-même, mais il y a aussi la découpe par la couleur ou simplement par le trait. Et au fond, on se demande quand même, tout au long de l'exposition, malgré la beauté de certaines images, hein, et de certaines corps découpés, comment est-ce qu'on peut penser justement ces différents gestes de découpe, c'est-à-dire qu'est-ce qui préside à la volonté de découper, hormis évidemment, on a quand même la sensation que ce premier geste de découpe, il conduit à un avenir du geste du sculpteur, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une mise en espace dans le simple premier relief de la figure découpée sur le papier, et en même temps, on peut ne pas penser que le geste de découpe, c'est aussi enlever du papier, que le geste du sculpteur, c'est aussi enlever de la matière. Donc il y a là quelque chose qui serait une espèce de et c'est sans doute la volonté de l'exposition de montrer que le geste du sculpteur, c'est pas simplement lui devant son bloc de marbre ou son bloc de pierre ou même son plâtre, mais que ça démarre dès le trait, le dessin et le papier.
Annaëlle Pigeat, parce que c'est vrai que cette exposition au musée Rodin, c'est un peu la même problématique qu'au musée Picasso, hein. C'est comment on nourrit sans cesse un musée consacré à un seul artiste, alors dans les deux cas, les œuvres sont suffisamment pléthoriques pour qu'il y ait de la matière, mais enfin quand même, cette exposition du musée Rodin nous dit quoi de neuf sur Rodin ?
Mais je la trouve assez surprenante, cette exposition, parce que en fait, on croit qu'on connaît Rodin, mais ces œuvres-là, on ne les connaît pas. Elles viennent en très grande majorité, en tout cas moi je ne les connaissais pas, elles viennent en très grande majorité du fond du musée. Elles viennent en très grande majorité du fond de l'atelier de Rodin. Quelques-unes ont été données par des personnes très proches de lui, son secrétaire René Chéruy et sa biographe Judith Cladel, ce qui montre bien, et c'est une pratique qu'elle a eue, cette pratique de découpage de ces petites figures qu'il a eue tout au long de sa vie. Donc en fait, il y a quelque chose là de très intime et de très ludique, et je trouve que c'est une image de Rodin beaucoup plus joueur que l'image que l'on s'en fait habituellement. Par ailleurs, c'est une exposition qui est, je trouve, tout à fait intelligemment menée, parce que les commissaires ont dû choisir un certain nombre de partis pris, notamment dans la manière dont ils ont montré ces découpages, ces figures, parce que donc ce sont essentiellement des silhouettes de corps, enfin des découpages de corps, qui pour la plupart ont été trouvés en vrac dans l'atelier. Un seul avait été exposé par Rodin lui-même, collé sur une feuille de papier qui est une figure de dos sur une feuille de papier un peu sombre, enfin un peu jaunie. La plupart d'entre elles non étaient, et alors là aussi on parlait de la dimension, vous parliez de la dimension sculpturale à l'instant, mais on sent aussi que ces feuilles de papier sont des objets, que Rodin les manipule, qu'il peut les tenir dans sa main, et ce sont des petits formats, donc on sent la matérialité de l'objet très grande. Et donc les commissaires de l'exposition ont pris le parti d'encadrer ces images et ces objets de la façon la plus neutre possible, en général au centre de la feuille, voilà, de la manière la plus logique. Mais et en plus, en pratiquant des éclairages latéraux, des lumières rasantes, qui montrent bien les pliages, les découpages, les plis du papier. Alors on voit pas les traces d'épingles comme dans les papiers découpés de Matisse, mais on voit vraiment une matérialité de ces objets qui est tout à fait sensuelle en fait, qui est tout à fait et qui va très bien avec la sensualité de ces corps, avec les ondulations de ces corps. Ce qui est intéressant aussi dans le fait que ces objets soient passés un peu inaperçus, c'est que la plupart d'entre eux ont été reproduits dans l'album Fenaille, ça c'est pour le premier ensemble de dessins, en 1897, et que la reproduction même a produit un aplatissement des collages qui fait qu'en fait on ne s'est pas aperçu que ces objets étaient des collages.
Alors, je reviens à la question sur comment le musée Rodin peut produire toujours de nouvelles expositions consacrées à Rodin, parce que c'est vrai que là c'est la première fois qu'on les voit tous ensemble, ces papiers découpés, mais on a pu les en voir parfois. Ça nourrissait d'autres thématiques d'exposition, et c'était d'ailleurs souvent des moments assez remarquables, parce que c'est vrai que ce ne sont pas les choses que l'on connaît le plus, Corinne Rondeau.
Ouais, je dirais que c'est interne à l'œuvre de Rodin. Mmh. Je veux dire, là, ils sont peinards, on va dire. Ils sont peinards, les conservatrices du musée, puisque comme en fait Rodin a fait beaucoup travaillé sur la question de l'assemblage, autant avec ses assemblages de plâtre, autant avec son crayon dès le début, puisque ce qu'on voit au début c'est de l'orientalisme, et il fait déjà du collage, c'est-à-dire qu'il compose avec le minimum de relief en faisant des superpositions et des juxtapositions. Et d'ailleurs on le voit très bien dans les salles à la fin, on voit qu'en fait il fait un volume sur le dessus, une vue du dessus du corps, et c'est des superpositions, c'est comme des strates. Et donc Rodin, je dirais, il a une manière de composer qui est aussi vieille que la Renaissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'archéologie a recombiné des fragments de membres qui avaient disparu, qu'on a... Voilà, la Renaissance a travaillé sur les abatis, elle a composé. C'est le dernier grand sculpteur moderne, mais qui est renaissant. Je veux dire, la puissance de Rodin et la manière dont ce musée sera éternellement là où il est, c'est parce qu'il y a une capacité interne à l'œuvre de la recombiner sans arrêt. Donc, où vous prenez de tous les côtés, vous vous en sortez toujours nickel. Et vous aurez toujours oublié d'ailleurs une œuvre en me disant « Mais ça me fait penser à un truc. Ah mais c'est pas tout à fait. Ah mais c'est... Ah mais oui, c'est à l'envers. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment à l'endroit, voyez-vous. » Et quand il me ressort par exemple une sculpture avec un plan qui vient couper une partie du corps, ça, un truc super moderne, ou alors ce visage parfaitement figuratif, où d'un coup vous avez des formes très abstraites, vous dites mais tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème, il est moderne, il est tout à fait à son endroit. Donc là, ce qui est assez formidable, c'est pour moi, c'est d'avoir vu cette question de juxtaposition. D'ailleurs, dans le couloir où vous parliez avec les figures, les masques, les figures noires, il y a aussi toutes ces imprimés. Il prend des imprimés et il va apposer des dessins sur ces qui sont des encadrements imprimés de tissus de Jaconas. Donc, il y a cette manière de vouloir mettre la main, le dessin fait à la main sur de l'imprimé, sur du reproductible. Ça, je sais pas s'il en a conscience, mais en tout cas, il vient caler sur une partie de l'encadrement. Ça, je trouve ça génial. Et cette idée de reproduction, de travailler sur du, je me mets sur. C'est aussi avec ces pochoirs japonais qu'on trouve à la fin de ce couloir qui sont absolument admirables, entre du figuratif, des poissons, ou alors de l'abstraction, on dirait du Joseph Albers, qui collectionnait. On voit bien ce travail sur le vide et le plein, et qui a effectivement sur où est-ce que je mets la figure, est-ce que la jambe je la mets derrière. On le voit avec des séries, par exemple, il y a deux femmes avec une robe verte, on voit très bien l'emplacement de la jambe qui d'un coup va disparaître au découpage. Mais ce qui est beau, si vous voulez, c'est cette manière de se dire... Mais, en fait, on tourne autour des dessins. Je veux dire, en tournant autour des dessins ou en faisant tourner les dessins, de la même manière qu'il y a un petit dessin du début qui est la muse du chant, Melpomène, et qui tient le masque comme ça avant la série. Et donc, il y a cette idée de regarder et de tourner autour. Et en fait, on tourne quand même autour beaucoup de jambes très en l'air.
Très en l'air.
Ce qui est merveilleux, c'est que je pense que les gens ne regardent pas tout à fait ce qu'il y a dans l'exposition, parce que je pense que... Bon, enfin, bref.
Il pourrait y avoir
beaucoup de figures volantes, oui, effectivement.
Très volantes.
Oui, très volantes.
Inépuisable, Sally Bone, Rodin.
Inépuisable, oui, sans doute. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette question de comment, finalement, ce geste fait partie du processus de travail, depuis l'atelier jusqu'à la fabrication des objets. Je trouve assez pertinent cette première entrée dont vous parliez, Corinne, qui est ce Dionysos découpé, qui renvoie aussi, c'est assez pertinent, à ces objets qu'on a redécouverts récemment, enfin qui ont été remontrés récemment, qui sont ces plâtres antiques que Rodin collectionnait et dans lesquels ces vases étrusques ou ces vases grecs qui sont en terre cuite, dans lesquels Rodin fait sortir une figure de féminine en plâtre, c'était assez magnifique. Donc il y a ce jeu là où la question de l'assemblage et du jeu justement, elle est présente aussi bien dans la découpe que dans une matérialité. Alors il y a juste peut-être une chose qui est un peu peut-être singulière, parce que ce dont il est question, c'est le non fini, le fragment, l'accident, le jeu justement et l'assemblage. Travailler sur cette question de la découpe. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même que 90 dessins de découpe sur les 250 qui sont montrés. Et justement, c'est une volonté de mettre en scène des séries, c'est-à-dire montrer aussi comment la découpe, eh bien, elle répond à un dessin ou éventuellement à une peinture ou éventuellement à une sculpture, parce qu'il y a aussi des sculptures, puis il y a aussi des masques, on l'a pas dit. Donc c'est vraiment comment ce geste de découpe, il s'insère dans une pratique globale, hein, et je pense que c'était le projet de l'exposition. Parfois, moi j'ai eu quand même l'impression que cette question de la découpe, elle pouvait être un peu forcée, et notamment, et Anaëlle, vous en parliez, sachant qu'il y a qu'un seul dessin qui a été exposé comme tel, enfin qu'un seul découpage qui a été exposé comme tel, et que le reste du temps, c'est un remontage arbitraire de la part du musée Rodin ou des commissaires. Donc ce qui pose question, c'est la dimension un peu esthétisante aussi, parce que c'est magnifique, ces corps découpés sur ce fond blanc et encadré, c'est vraiment très très beau. Mais est-ce qu'on fiche pas une pratique? Parce que moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est ces petits objets qu'on avait dans les mains là et qu'on articulait et qu'on pouvait jouer avec. Et on a l'impression qu'il joue avec Rodin, qu'il est là, il met, il pose, il met à l'envers, à l'endroit, qu'il cherche un mouvement et qu'il cherche une composition. Et que là, on fiche quand même les choses. Enfin, il me semble.
Mais justement, ce qui est intéressant dans ces assemblages, c'est que dans cette manière de mêler ces personnages, parfois ils sont juxtaposés, parfois ils sont entrelacés, parfois ils sont les uns dans les bras des autres. Enfin, il y a une pratique comme ça qui est assez diverse. Les positions sont souvent très incongrues. Alors certes, il y a les figures volantes, mais il y a aussi des choses qui sont complètement absurdes, enfin qui sont des positions impossibles entre deux figures assemblées. Et ce qui montre bien la dimension extrêmement, enfin le caractère de recherche plastique de sa démarche. Et d'ailleurs, il y a un détail qui est intéressant, c'est que Rodin utilise souvent des papiers assez fins, mais que la plupart de ces figures des ensembles là, qui sont montrés dans la deuxième partie de l'exposition sont au contraire sur des papiers épais, ce qui montre bien que dès le démarrage, dès le début du dessin qui en général précède la découpe, Rodin a l'intention d'achever son geste par la découpe.
Un dernier mot, Corinne Rondeau.
Il faut lire aussi le catalogue qui est un peu boring, mais tout de même qui quand même explique toutes vous évoquiez Sally, enfin je veux dire, la conservatrice explique comment elle a collé ces choses-là, comment c'est arrivé, comment elle les a disposées. Donc je dirais qu'il y a Franco, voilà, on a fait comme ça parce que effectivement dans cette masse de papier, eh bien voilà. Mais enfin moi je me réjouis que Rodin n'ait jamais connu, n'ait jamais su faire la perspective. Puisqu'il disait qu'en fait, c'est à cause de ça que son dessin bougeait tout le temps. Donc en fait, grâce à ça, il a dû faire la sculpture grâce à pas de perspective. C'est formidable.
Rodin dessiné découpé. C'est jusqu'au 24 février au musée Rodin à Paris, un catalogue donc boring, ennuyeux peut-être, mais riche, qui explique au moins très savamment le pourquoi de cette exposition. C'était un catalogue coédité par le musée Rodin et Hazan. À suivre dans la dispute l'art du chantier, l'explication des œuvres d'art, il serait temps, et le petit salon de Lucille Como.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec l'art du chantier, construire et démolir. XVIe, XXIe siècle. C'est à voir jusqu'au 11 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Le commissariat est assuré par Valérie Nègre et Marie-Hélène Contal, assistée de Diane Aymar. Scénographie Patrick Bouchain avec Nicole Condorcet et Mathieu Baer. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est un lieu dont on parle finalement assez peu. C'est une bonne occasion, en l'occurrence, de le faire avec cette exposition dont le titre est quand même assez explicite. M'évite d'en dire beaucoup plus pour l'instant.
Manteau piqueur.
Rendons-nous dans cette cité de l'architecture et du patrimoine en suivant les pas, cette fois, de Sally Boone. Alors, c'est vous qui commencez.
Oui, d'accord. Très bien. L'art du chantier, le sous-titre, il me semble important, construire et démolir, parce qu'il introduit une dynamique dialectique qui est le mouvement même de l'histoire et du temps et de l'idée de progrès qui est au cœur de cette exposition, qui montre à travers...
Et au cœur de cette émission aussi.
Et au cœur de cette émission, oui, qui montre à
construire
travers
et
trois
démolir.
Grands thèmes l'histoire du chantier et de sa représentation aussi, parce que c'est important. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est quand même une profusion d'œuvres qui sont d'ailleurs hiérarchiquement différentes. Et aussi, je pense que c'est ce qui est volontairement montré, c'est-à-dire que dans un chantier, il n'y a pas d'hiérarchie, et donc il n'y a pas d'hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux, des gravures, des dessins à l'encre, des coupures de presse, des maquettes, des films, j'en oublie sans doute. En tout cas, tout ça est mis et accroché, peut-être qu'on discutera plus tard de la scénographie, mais qui est accroché comme ça dans une... comme une sorte de, je sais pas, à la fois un mélange de cabinet de curiosité et de grand déballage sur des cimaises dont on parlera après, parce que je pense que c'est pas important de démarrer là-dessus tout de suite.
Allez.
D'accord. Donc
alors.
Sur une espèce de, alors c'est vrai que c'est un lieu extrêmement difficile.
Ah oui,
c'est un sous-sol, un grand sous-sol, grand couloir en courbe, sans lumière. C'est déjà sans doute très très difficile à occuper. Le choix de la scénographie faite en collaboration entre Nicole Condorcet, je crois,
Nicole Condorcet, Mathieu Baer, Patrick Bouchain.
Et Patrick Bouchain qui est dans l'exposition aussi.
Oui.
Donc bon, mais à la fois il peut pas ne pas y être parce que vraiment, si lui n'avait pas une pratique du chantier, enfin c'est vraiment l'architecte qui a une véritable pratique du chantier, une pratique politique et sociale, donc c'était évidemment important qu'il y soit. Sur la scénographie, c'est une sorte de, je sais pas, grand Leporello ou un jeu de plis et de déplis, que des angles, et dans ces angles, des trous, des ouvertures, des trucs qui sortent, qui rentrent, enfin on... C'est un peu particulier.
C'est la ville.
Hein ?
C'est la ville.
C'est la ville, peut-être.
Ouais,
c'est ça.
Ça rentre, ça sort.
Des points de vue.
Ça rentre, ça sort. Il y a plein de points de vue. Voilà. Et donc, c'est aussi l'idée de montrer les différents points de vue sur le chantier. Alors, qui se donc distinguent en trois grands moments qui sont aussi, en fait, chronologiques. C'est-à-dire, d'abord, les procédés, les techniques, les machines, le travail. Après, on a les enjeux politiques et sociaux. Et puis, un dernier... on a tourné à ce moment-là, on est de l'autre côté, et puis on est dans l'esthétique du chantier. C'est peut-être la partie la moins efficace, la plus ratée. j'ai essayé d'aller doucement. C'est peut-être la plus faible, en tout cas, dans l'ensemble de cette exposition. Mais voilà, il y a une grande richesse des œuvres. Enfin, de l'ensemble des choses qui est montré. Mais on va
du sujet même de l'exposition.
Du sujet même d'exposition.
Ben voilà, après cette remarquable Explication, introduction, Anaëlle Pigeat, regard sur cet art du chantier construire et démolir.
Mais c'est une exposition assurément très ambitieuse parce que d'abord c'est un sujet plutôt original, assez peu traité. C'est ce moment de le chantier, c'est ce moment de transition, c'est le moment où on est entre plusieurs choses évidemment. C'est une exposition qui mêle à la fois les époques et les lieux, encore que. On va y revenir peut-être aussi.
Et on va revenir sur beaucoup de choses. Il faut que je prenne des notes. Parce que là, je vais demander une prolongation de l'émission.
Non, c'est un sujet que je trouve au fond assez poétique, parce que c'est la ville qu'on voit d'un immeuble très haut et d'un point de vue d'où on peut voir des grues et où on peut voir la ville en train d'évoluer. C'est une exposition très claire. On voit en effet, alors moi je verrais plutôt des petites alvéoles, mais en fait je trouve que c'est un livre cette exposition. Elle est totalement débordante. Chaque vitrine pourrait mériter qu'on s'y arrête pendant une demi-heure. Enfin, chaque chapitre mériterait qu'on s'y arrête pendant une demi-heure. Et au fond, je trouve qu'elle a quelque chose presque d'un peu trop pléthorique. Finalement, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont elle montre le chantier à travers les époques, le chantier comme une matière vivante. Et au fond, il y a quelque chose d'un peu paradoxal en effet, parce que cette idée-là est exprimée plutôt dans la dernière partie, avec le point de vue notamment de Patrick Bouchain, mais aussi de Marc Mimran et de Martine Raur qui raconte, et puis il y a aussi une dernière partie dans laquelle on voit des œuvres d'artistes qui parlent du chantier, et au fond cet aspect-là est un peu escamoté effectivement à la fin, la dernière œuvre d'Alain Bublex qui est un peu montrée dans le couloir, le film de Gordon Matta Clark que Nickel Intersect qui est sur un tout petit écran à la fin
Corriendo, vous avez raté quelque chose,
voilà,
pour une fois,
mais cela dit il y a tellement de choses avant qui sont
effectivement marchait plus. Ça arrive souvent aussi, hein, vous savez. Ouais. Comme ça qu'on aura des vidéos, généralement.
Bon, en tout cas, il y a quand même une quantité d'informations absolument passionnantes à avant, d'une extrême érudition. Et puis, un tas de documents très originaux. Il y a par exemple les photos de Marc Petitjean sur le trou des Halles, qu'on avait vu dans l'exposition de Gordon Matta Clark. Il y a des extraits très amusants des visiteurs de chantiers. Enfin, je dis tout ça pêle-mêle, mais des petits films qui montrent les visites sur les chantiers officiels et le spectacle que représente le chantier au milieu du XXe siècle. Il y a une lettre, par exemple, de Gio Ponti qui demande à Le Corbusier s'il peut venir visiter son chantier. Donc, c'est une source d'information, c'est une mine, cette exposition.
Corinne Rondeau, qu'on n'a pas encore entendu cette exposition.
Oui, c'est une mine éclatée, c'est évident. C'est le chantier, ouais, il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a des gravats, il y a des maîtres d'œuvre. Voilà, il y a tout le monde. Et il y a des ouvriers, évidemment.
Beaucoup.
Donc, c'est vraiment l'exposition, là. Alors, bon, vous l'avez dit, ça lit trois parties, des sous-parties dans les parties. Alors, évidemment, ça ressemble à un livre, hein, des chapitres avec des sous-paragraphes, des sous-chapitres. Enfin, bon, bref. alors, on peut se perdre. Le plaisir, c'est de se perdre. Comme on pourrait se perdre dans des rues de ville, on va dire comme ça. Parce que, évidemment, le chantier, c'est le mouvement en permanence. Donc, cette chronologie, elle est toujours rabattue sur un certain nombre d'illustrations, de gravures qui remontent un peu encore le temps chaque fois. Donc on a l'impression d'avancer sans jamais avancer.
Oui, sur la question des techniques.
Voilà, c'est ça. Alors évidemment, comme le disait, vous savez, Claude Lévi-Strauss, l'art c'est la prise de possession de la nature par la culture. Et là, on voit bien que le chantier, c'est la prise de possession de la culture par la technique. Et évidemment, ça commence comme ça. On est un peu surpris parce qu'on a une tour de Babel. Et évidemment, c'est aussi ça, je veux dire, la culture et la technique, comment on va dépasser les limites. Et donc, on a la Tour Eiffel et l'Empire State Building qui sont un peu étonnants parce que moi, quand je pense à chantier, je pense à terrasse et au terrassier. Vous voyez, faire un plan, une fondation et on monte. Et donc là, on a tout de suite monté les ponts.
Le spectaculaire.
Donc, voilà, le franchissement. Et puis on a des petits écrans comme ça, de petits écrans plats, plats, où on voit par exemple en 15 jours la construction d'un hôtel de je ne sais pas combien d'étages qui vont ne pas faillir à s'écrouler après une secousse après une secousse de 9 sur l'échelle de Richter. Et là, on se dit waouh, 15 jours pour. Bah, j'y rentre pas, moi, hein. Non, voilà, on est dans la technique, et évidemment, après cette technique qui est un peu flamboyante, qui veut vous en mettre un peu dans les yeux, comme les parties sont assez petites et qu'effectivement on passe d'angle en angle, comme ça souffle, comme vous l'avez dit toutes les deux, moi j'étais un peu surprise, mais c'est voilà, ça a une volonté de vouloir dire on édifie, on va franchir les vides, on va joindre, donc il y a quelque chose d'une forme un petit peu archaïque, on va dire, sur l'édification. Mais évidemment, édifier, c'est aussi instruire, c'est construire. Donc on va petit à petit avoir tous les éléments techniques qui vont venir là, avec, comme vous l'avez dit, des maquettes, notamment le système bord, c'est-à-dire au lieu d'avoir des échafaudages et de monter des pierres pour les placer à tel étage, eh ben, le système bord, puisque Jean-Baptiste Bord était un constructeur de chemin de fer, il va faire comme un travelling et puis il va mettre sa grue. Ça a été construit à Marseille, à la Joliette. Il avait fait avec le système un peu de poulie qui ressemblerait à quelque chose de marin, vous savez, des cordages. Et puis, il va pouvoir transporter une pierre à l'étage, à l'emplacement, ce qu'on a avec les grues aujourd'hui. Donc, vous avez ces éléments qui sont assez stimulants, de voir des maquettes, une excavatrice, par exemple. Il y a des choses dont on peut se nourrir en termes de techniques, des dessins absolument formidables sur la construction de l'Escorial, de Philippe II d'Espagne. Vous savez, c'est le palais de Philippe II, le fils de Charles Quint, qui est sur à 80 km à peu près de Madrid, ou peut-être moins, je ne sais plus, moi je l'ai vu pourtant, qui a la forme d'un grill, puisque c'est le Saint-Laurent, c'est le martyr de Saint-Laurent qui est un grill, bon, alors le château. Et là, on voit la construction, et alors c'est génial, parce qu'il y a des dessins comme ça qui font, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces d'échelles mal foutues? Et en fait, c'était les dessins des grues, puisqu'ils avaient disposé des systèmes de grues de part et d'autre de la construction déjà préétablie. Et c'est intéressant, parce qu'entre ce dessin qui est fait un peu à la plume, comme ça, rapidement, relève en fait les zones de tours, des angles du bâtiment. Et j'ai trouvé ça assez beau, entre l'outil pour élever et le bâtiment élevé en termes de tours.
Anna Elpija.
Ce qui est très réussi dans l'exposition, en fait, c'est son ampleur. C'est-à-dire que on va du micro, enfin, on a un sens de la technique qui est extrêmement précis. On apprend, par exemple, l'existence d'une machine qui s'appelle la chèvre à treuil différentiel. Et puis à côté, il y a le mouton.
Vous connaissez pas son existence?
Non.
Je suis très étonné, Anna Elpija.
Mais voilà. Je connaissais pas non plus
le
mouton à déclic avec manivelle et volant.
Il a
d'avant 1814. Oui. Ouais. Donc on a quand même les mains dans le chantier, si je puis dire. Et puis, à l'autre extrémité du spectre de cette exposition, il y a une vision abstraite, presque philosophique, que donnent les architectes de la fin, dont Patrick Bouchain. J'étais peut-être étonnée d'une chose, c'est une exposition qui parle du monde occidental, c'est dit dans l'immense catalogue aussi. J'étais étonnée qu'il n'y ait pas de contrepoint, quand on commence à parler de matériaux fragiles, d'écologie à la fin, qu'il n'y ait pas de contrepoint sur des aspects d'architecture dans le monde extra-occidental. En même temps, il y a déjà tellement de choses de l'exposition que c'était peut-être compliqué
de rajouter. Ce type d'exposition, on le dit souvent, il faudrait s'arrêter un peu avant la fin pour que ce soit vraiment bien. Mais bon,
mais
c'est souvent le cas. Parce que la partie contemporaine est toujours la question la plus problématique.
Mais là, un autre aspect très réussi de l'exposition, c'est toute la partie sur la représentation du chantier et toutes ces images, les photographies de Doineau, de la maison de Prouvé qui arrive qui tombe du ciel avec l'abbé Pierre, les photos de Marc Riboud, les caricatures aussi de Cham, par exemple, qui sont passionnantes.
Alors sur la longue liste des choses sur lesquelles il fallait revenir, une, Sally Bonne, peut-être, pour terminer.
Non, il y en a plein sur lesquels il faudrait revenir,
mais non.
Alors rapidement, un choix. Bon, il y a des très belles choses à voir, hein, justement, les maquettes, dans les photographies, dans les dessins à la plume et dans les gravures du début aussi, parce que ça couvre quand même, hein, on l'a dit, mais c'est 16e siècle, 21e siècle, donc il y a vraiment comment aussi, et au fond, les premiers moments de cette promenade qu'on fait dans ces angles-là, on a quand même, à mesure qu'on avance dans l'exposition, le sentiment très fort de cette dimension d'érection, de franchissement, d'aller toujours plus haut, cette espèce de volonté des hommes de transformer la nature et d'agir sur elle, et cette manifestation comme ça de puissance, hein, cette volonté de puissance renvoie dans la deuxième partie, c'est très intéressant justement, à des dimensions politiques, aussi bien dans la représentation politique que dans des enjeux sociaux, parce qu'il y a des ouvriers, que les ouvriers y tombent, il y a des très beaux ex-voto d'ailleurs magnifiques d'ouvriers qui tombent. Et c'est vraiment, enfin moi je pensais à cette phrase de Descartes, hein, c'est la l'homme comme maître et possesseur de la nature. Donc comment vraiment on veut manifester son existence au monde, et c'est ça, finalement le chantier, c'est ça aussi, c'est à la fois la question du temps qui est en jeu, hein, le ce qui est à venir aussi, et c'est aussi cette volonté d'érection.
L'art du chantier. Construire et démolir, 16e, 21e siècle. C'est jusqu'au 11 mars, à l'architecture et du patrimoine, un catalogue très riche, là aussi.
Très beau.
Coédité par la Cité et par l'édition SNEC. Corinne Rondeau, vous vouliez reprendre la parole sur la Cité de l'architecture et du patrimoine ? Non, mais sur votre coup de cœur, oui.
Oui.
Puisque c'est le moment, enfin, le moment que j'attends impatiemment, c'est que vous allez parler d'Heinrich Wölfflin, que vous m'avez fait découvrir, et je vous en remercie.
Bah, écoutez, moi j'ai commencé par lui, il y a très longtemps, et c'est vraiment pour moi l'historien de l'art le plus optique, c'est l'historien de l'art le plus artiste, le plus esthète. Alors on l'a beaucoup critiqué parce que c'est un historien qu'on dit formaliste, c'est-à-dire la question de la forme, c'est quoi, ça se définit chez lui par une spécificité de l'histoire du style, ce qui veut dire en gros de la forme générale, de la sensibilité esthétique à une époque donnée. Voilà, on va être grosso modo. Donc il a été un petit peu asphyxié, on va dire, par toute la période panofskienne après lui, puisqu'il naît dans les années 1890, il prend la chaire à pas 30 ans de Jacob Burckhardt, rien que ça. C'est quelqu'un qui a un rapport aux œuvres très sensible parce qu'il est tout le temps en Italie, il vit à côté des œuvres. Et alors ce livre, c'est une espèce de petite bombe qu'il faut lire. C'est un tout petit livre.
L'explication des œuvres d'art.
C'est deux textes. D'abord le premier de 1909, du mauvais usage de l'histoire de l'art. J'adore.
Le titre.
Et le deuxième, l'explication des œuvres d'art de 1921. Et vous savez qu'en 1915, il a fait les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, qu'il faut lire simplement comme ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire comme Renaissance et Baroque. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne vient pas juger une période par rapport à une autre. Ce qu'on découvre en lisant Wölfflin, c'est toujours presque, je dirais, quelque chose d'un comparatisme. C'est-à-dire que pas une période vaut mieux qu'une autre. Mmh. Elles sont différentes. Et donc, tout se joue dans ce rapport à l'œil très précis. Et ce qu'il y a de formidable chez Wölfflin, c'est cette auto-réflexion qu'il y a souvent dans son œuvre. Et ces textes-là, du mauvais usage, notamment de l'histoire de l'art, démontrent qu'il sort et qu'il regarde ce que c'est que l'art. C'est-à-dire qu'il va vous poser des questions qui sont, est-ce que ça sert à quelque chose, l'histoire de l'art? Est-ce qu'il faut éduquer? Est-ce qu'il faut enseigner ça à l'école secondaire? Non! À quoi ça sert le musée? Je cite, lorsqu'on observe les masses des visiteurs qui se bousculent, il nous vient des pensées bien pessimistes quant à l'utilité de telles institutions. 1909. Lorsqu'il dit à quoi servent ces recensements, ces inventaires, ces collections, ces éditions complètes d'artistes, rien, on n'y voit rien. Il dit d'ailleurs, on y voit trop. Alors ça commence comme ça, c'est la première page. Donc si vous voulez, voilà, il vous met des gifles parce que ce truc-là a plus d'un siècle. 1909, on est en 2018. C'est-à-dire, ce sont deux textes d'une extrême actualité, d'autant qu'en fait c'est pour moi l'historien d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui a un mode de visibilité lié à des sensibilités. Et je pense qu'il est dans un régime esthétique beaucoup plus fort que n'importe quel historien après Panofsky jusqu'à aujourd'hui. Je citerai pas des artistes, des auteurs vivants, mais je trouve que...
Vous avez assez d'ennemis comme ça.
Oui, mais c'est pas bien grave. Et il y a un mot qui revient deux fois, qui est le problème des problèmes, c'est la qualité, c'est-à-dire comment on forme le regard. Alors je vous conseille ça, plus la postface de Daniel Cohn, que j'ai découverte à la fin, et elle cite le grand auteur que cite aussi Wölfflin, qui est Goethe, et je vous l'ai dit, du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire, sans augmenter mon activité ou l'animer directement. Elle a raison.
L'explication des œuvres d'art, petit volume d'Heinrich Wölfflin chez L'Écarquillé. Saluons cette maison d'édition qui publiera.
Oui, je les embrasse sur leur œil écarquillé.
Et dans peu de temps, Les Principes fondamentaux, nouvelle traduction.
Ah,
également aux éditions L'Écarquillé, donc on en reparlera.
Je ne connais pas, mais je suis ravie d'avoir découvert ça. C'est cousu à la main en plus, donc presque.
Un bonheur.
Il y a du fil.
Ah, oui, bon, on en reparlera. On reparlera
de Wölfflin
ici. Je partage. un petit salon dans lequel nous entrons à la suite, cette fois de Lucille Gomeau, hein, qui est tenancière du lieu, vous le savez, depuis 1612.
1909, de fait.
Ce soir, Lucille, le parti pris d'exposition 100% féminine.
Oui, cette nouvelle année marque le 10e anniversaire d'une exposition qui avait fait couler beaucoup d'encre et fait dire bien des mots, l'exposition Elle, au pluriel, au Centre Pompidou, à Paris. Pour la commissaire Camille Morino, il s'agissait alors de ne montrer que des artistes de sexe féminin, manière en quelque sorte de dérouler une histoire de l'art moderne en ne puisant que chez les artistes femmes de l'institution, qui à l'époque représentait un pourcentage infime des collections. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, notamment grâce à l'exposition, mais le déséquilibre reste flagrant. Alors Elle avait été un succès public et s'était attiré les foudres d'à peu près tout le monde pour à peu près toutes les raisons. On l'avait accusé de n'avoir aucun sens d'un point de vue esthétique, on l'avait accusé de n'avoir aucun sens d'un point de vue politique, féministe, de desservir la cause ou de la servir mal. Ça avait été en tout cas l'occasion d'un grand débat sur le sujet, celui du sexe de l'art et de ses manifestations dans les institutions françaises. Alors, quid de 2019, le Centre Pompidou n'a programmé aucune exposition majeure consacrée à une artiste. Les femmes, pour être de plus en plus présentes dans les musées, les galeries, les revues, les journaux, n'en sont pas beaucoup davantage exposées. Le prix Marcel Duchamp, par exemple, est un catalogue d'hommes depuis des années. C'est ce que constate, entre autres, un article paru il y a quelques semaines dans le Quotidien des Arts, qui, en quelques colonnes, propose une synthèse, peut-être un peu dense, intitulée « Féminisme et art, les nouvelles voies ». Dense, parce qu'il n'est pas simple de tenir dans une même réflexion tous ces enjeux, celui politique du personnel féminin à l'œuvre dans les institutions, celui social de la domination à l'œuvre à tous les échelons des dites institutions, celui esthétique d'une cohérence identitaire ou de genre d'artiste dit féminin. Bref, sur le terrain de l'art institutionnel et des revues se joue la bataille des féminismes, essentialistes, queer, non-binaristes, articulés aux questions minoritaires sexuelles, racisées ou sociales. Reste que dans cet édifice critique fragile, il faut pourtant se repérer, à commencer peut-être par vous, la critique, pour articuler une pensée à la fois politique et esthétique sur la question. Pour en revenir à Elle et au Centre Pompidou, Camille Morino œuvre désormais à la Monnaie de Paris. Elle ambitionne de montrer tous les 2 ou 3 ans une exposition entièrement consacrée à des artistes femmes. La première a déjà eu lieu, ça s'appelait Woman House. Et elle était très différente de celle de 2009, puisque là il y avait un thème, un biais et donc une forme d'engagement en l'occurrence, celui de la représentation de la domesticité, je cite. Elle a moins fait parler et pourtant pose encore beaucoup de problèmes. Je vous retourne donc celui-là. Se poser la question d'exposition 100% féminine est-elle une bonne question?
Ah, bon, voilà. C'est simple finalement comme question. Enfin, Mona Hatoum, Sheila X, des artistes femmes au Centre Pompidou, des expositions importantes, il y en a eu hein, quand même depuis.
En 2019, là, en l'occurrence dans l'année qui vient.
Ah, dans l'année
qui
vient, voilà, pardon, c'est le programme ça. À venir.
10 ans après.
D'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas.
Oui, bien sûr,
mal entendu.
C'est évident.
Non, mais ça fait pas si longtemps que c'est évident. D'où le sujet. Alors, réponse à la question qui commence, Anaël Pigeat.
Mais c'est que le sujet en soit un, il y a assez peu de doutes de la représentation des artistes femmes sur la scène artistique. C'est un autre exemple anecdotique que je voyais récemment. Le critique d'art Chris Sharp le relevait sur un de ses comptes de réseaux sociaux. Dans la liste des artistes de la galerie Michael Werner, qui est quand même une des grandes galeries, internationales, il n'y a aucune femme, il n'y a que des hommes. Donc bon, voilà, la question se pose, c'est évident que l'exposition Elle à Centre Pompidou ait été très critiquée, c'est évident aussi, qu'elle peut-être ait eu un certain nombre d'inconvénients, on peut le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a été un premier pas, un commencement d'une action qui se développe aujourd'hui. L'activité d'ailleurs de Camille Morino, qui est à la Monnaie aujourd'hui, a un autre développement à travers son association qui s'appelle Aware et qui est une réponse justement, par exemple, au prix, à la caractère très masculin du prix Marcel Duchamp. C'est un prix qu'elle décerne à des artistes femmes avec un jury, et il y a tout un réseau d'activités et de personnes très engagées autour d'elle à cet égard. Finalement, je trouve que si on essaye d'envisager cette question un peu plus largement, ce qui serait quand même l'idéal à atteindre, ça serait d'arriver peut-être à une forme de neutralité sur ce point de vue, enfin, et pouvoir et en tout cas pouvoir parler du travail des femmes artistes sans bienveillance excessive, sans négligence non plus, sans sur ni sous représentation, et finalement pouvoir parler des travaux d'artistes femmes sans avoir forcément à envisager la question d'un art féminin ou pas. Alors il y a un certain nombre d'exemples comme ça.
Mais
par
le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire.
Il y a beaucoup de
d'ailleurs,
exactement,
pas mal d'institutions, que ce soit notamment le musée du jeu de paume, s'y attache à montrer des œuvres d'artistes, en l'occurrence souvent photographes évidemment, un peu négligées, où on a vu aussi de grandes expositions au Grand Palais sur des femmes d'un duo d'artistes dont le mari avait peut-être un peu éclipsé aussi l'œuvre. Enfin, il y a quand même tout ce travail-là, il faut le faire aujourd'hui.
Et c'est pour ça que l'exposition, elle, à Centre Pompidou, était absolument décisif. Mais par exemple, il y a un exemple intéressant actuellement, c'est l'exposition Poésie prolétaire qui ouvre à la Fondation Ricard et qui est une exposition d'artistes femmes, mais à aucun moment ça n'est dit, à aucun moment ça rentre en jeu. Je trouve ça plutôt intéressant.
Salut Bonne.
Mais pourquoi le dire?
Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on le dit...
Parce que Lucille nous y incite.
Et le site le signale quand même. L'article que vous citiez, Lucille, le signalait aussi. Donc il y a quand même cette nécessité ou cette volonté de signaler la part ou la totalité du féminin dans une exposition. Et évidemment, ça continue à poser problème. Certes, l'exposition, elle, avait été un moment très important, très problématique aussi, on l'a souligné. On n'aurait sans doute pas le temps d'évoquer toutes les questions que l'exposition soulignait, mais elle a eu l'avantage de faire apparaître les manques énormes qu'il y avait dans toutes les institutions et dans toutes les collections. Il semblerait que cette question qui était à l'œuvre dans cette exposition il y a 10 ans, qui était celle de l'invisibilisation, elle se pose différemment aujourd'hui et que c'est plutôt la question de l'invisibilité que celle de l'invisibilisation. Et donc, comment résoudre cette question de l'invisibilité. Parce que, pour reprendre, puisqu'il y a des chiffres qui ont été évoqués, il y a quand même entre 60 et 80% des étudiants d'écoles d'art qui sont des femmes, qui sortent donc diplômées. Diplômées, ça veut dire qu'elles sont passées devant un jury, qui est un jury de professionnels, et c'est un jury paritaire. Et donc sur ces 60 à 80% de jeunes diplômés, et ben en fait,
combien mènent une carrière
professionnelle ? Il y a 20% en fait des artistes qui vivent de leur pratique qui sont des femmes. Donc qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Et ça veut dire aussi que ce chiffre-là, si faible, il est lié évidemment à toutes les instances et à tous les différentes étapes qui permettent d'accéder à l'exposition. Donc, comment on résout cette question-là ? Enfin, par l'apprentissage, par la connaissance, par la diffusion, certes, mais c'est le rôle, de la critique, c'est le rôle des journaux, c'est le rôle des magazines, c'est le rôle. Il y a tout un ensemble ou d'institutions en tout cas à mettre en route en fait pour résoudre ces questions-là, c'est-à-dire cet écart-là qui se passe entre un moment et un autre.
Mais est-ce que l'outil exposition 100% féminine, pour reprendre la question de Lucille Comeau, c'est un bon outil? Alors peut-être parmi d'autres, Corinne Rondeau.
100% arabica, c'est tout. Non, je pense que on n'a qu'à se reporter aux années 60 où c'était le féminisme et du droit civique, chercher un droit civique pour les minorités. Il n'y a jamais eu autant d'inventivité à cette période-là, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la normalisation de la marginalité ou de ce qui est devenu l'invisibilité de l'invisibilisation. Donc on en a ras-le-bol déjà des mots. Enfin moi personnellement, cette terminologie qui tombe sur les gens est insupportable. C'est vrai que le mot d'invisible, on l'a partout aujourd'hui. Il touche pas que les femmes. Il touche tout ce qui est à la marge d'un gros noyau, vais-je dire. Parce que le problème fondamental pour moi, et je peux me tromper, peu importe, c'est la question de l'occupation des places. Quand l'occupation des places, elle est tenue depuis longtemps par les mêmes, y compris parfois des femmes, c'est-à-dire que vous faites 1000 choses et vous occupez le poste de prof, le poste de critique, le poste de commissaire, le poste de machin. Genre dans un milieu qui est très petit, ça pose un problème de place. Où se trouvent les places quand il n'y a plus de place? C'est quand même dingue cogitoré qui a eu le Marcel Duchamp. Ils ont fait parité deux gonzesses, deux mecs. C'est encore un mec qu'il a eu. Faut voir, bon, on se réjouit pour la galerie, c'est très bien. Le mec a eu tous les prix. On a l'impression qu'il passe sa vie à faire des croix dans les cases. Mais quand on voit le travail de Marie Voynier et Tuvan Tran, qui était aussi Marcel Duchamp, on se dit, bah ouais, c'était moins simple. Ça venait moins vite. C'était plus efficace, les garçons. Donc on a envie de dire aussi à ceux qui font des prix, les mecs, arrêtez de négocier toujours la thune dans le même sens. Donc c'est ça aussi de prendre toutes les places. Donc moi, je dirais que la chose centrale, c'est que les historiens fassent leur job. C'est-à-dire, effectivement, non pas dire « Mon Dieu, mais à coup le pas, on a oublié ». Évidemment, l'histoire nous conduit à réouvrir l'histoire dans l'autre sens. C'est très bien, il nous faut des historiens pour ça. Qu'ensuite, on veut faire la troisième vague du féminisme, avec le binaire, non-binaire, transgère et zoophilie, moi, ça me dérange pas. Est-ce que je suis une femme? J'en sais rien, puis je m'en fous, quoi, je veux dire. J'ai envie que l'art, ce soit de la création, j'ai envie qu'il y ait de l'inventivité, comme il y a eu ce moment de petites révolutions dans les années 60 en Europe comme aux États-Unis où il y a eu des femmes sur des scènes devant des tableaux, devant des caméras, et les gens ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient hétéros, bi, homo, machin. Ils étaient à fond dans leur désir et ça passait à travers des formes. Ce qui nous manque, c'est quand même de l'invention. Ce qui nous manque, c'est quand même d'arrêter de poser toujours une terminologie qui nous écrase la tronche, où on ne sait plus quoi dire sauf d'être politiquement correct. Et moi, j'ai envie de dire, écoutez, mettez-nous de l'art, et puis après, on rediscute des noms. Et si on pouvait enlever les noms des œuvres, peut-être ça nous rendrait service à la critique d'arrêter de savoir qui vient quoi. Parce que là, effectivement, avec des noms, on sait qui va faire les prochaines expositions à Pompidou. Et moi, j'en ai marre, si vous voulez, que comme des concours qui se font très bien à l'université, hein, ça se fait pas à 100%, hein, là non plus. Vous savez qui c'est qui va arriver au poste. Alors quand vous avez deux filles et deux garçons, vous savez qu'il y a Kamel Ménour dans le coup, bon, il n'a pas eu, c'est dommage, avec Boussuera. Bon, je veux dire, à un moment donné, c'est pas la peine de faire de l'égalité, quand en fait, grosso modo, les paris sont déjà faits, quoi.
Lucille Gaumont.
D'accord, mais là, du coup, il n'y a aucune solution dans ce que vous
dites. Mais il n'y a pas de solution, on a envie juste que les gens, que les intermédiaires soient plus actifs.
Donc, il n'y a aucune réponse politique globale ou de volontarisme ou de système de quotas.
Bah, Lucille, qu'on en a marre d'entendre toute cette terminologie et des noms.
Mais quelle terminologie, c'est ça que je comprends
pas
bien.
Mais tout ce que vous avez annoncé grâce à ce texte, par exemple.
Vous voulez dire toutes les cases dans lesquelles se situent les artistes pour, à votre...
Mais
à votre
malheureusement,
avis,
les artistes sont instrumentalisés par un certain type de discours. Ils ne peuvent pas faire sans ça. Ce qui veut dire qu'ils vont... Alors, certains, bon an, mal an, ils vont là-dedans. Je veux dire, il y a une sorte de normalisation de la discursivité, de l'art.
C'est valable dans les autres disciplines artistiques.
Oui, bien sûr. Donc, c'est assez pénible pour moi. La question du politique, ça serait quand même... De changer quelque chose de la terminologie avec laquelle on va s'exprimer. Moi, j'en peux plus de ces discours qui sont tenus.
Mais justement, ces discours-là, ils sont peut-être tenus en compensation de quelque chose qui n'est pas tenu par le politique, qui est le discours. C'est son rôle. Enfin, elle doit tenir un discours sur ces questions-là. Tant qu'elle ne le tient pas, les artistes sont peut-être obligés de le construire eux-mêmes. Enfin, c'est un petit
mais
peu
je rêverais qu'ils le construisent comme dans les années 60 où ils cassent tout. Je veux dire, vive des femmes qui vont tout casser sans se dire on est des femmes parce qu'on casse. Je veux dire, qu'il y ait quelque chose qui se passe comme dans les années 60 où il y avait vraiment une sorte de je veux dire, pas de complexe, quoi. Pas de complexe. Non, attendez.
Anaël Pichard. Très rapidement.
Si on en revient à la question de l'art, qui est quand même ce qui nous occupe, il y a une chose que je trouve très troublante dans un certain nombre d'expositions. Absolument. Dans un certain nombre d'expositions qu'on a vues récemment, notamment Couple Moderne au Centre Pompidou. Et on peut prendre aussi l'exemple de Joan Mitchell Riopelle à la Fondation Leclerc à Landerneau. Quand on regarde Annie Albers et Joseph Albers, quand on regarde Sonia Delaunay et Robert Delaunay, quand on regarde Joan Mitchell et Riopelle, il y a une intensité et il y a une force dans les œuvres de chaque fois des artistes femmes de ces binômes qui sont présentés, que je trouve extrêmement troublante. La manière dont on peut formuler ça, je crois qu'il nous faut la nuit entière pour le développer.
Sally Bonne.
Oui, non, peut-être juste pour finir et pour revenir à la question qui était posée initialement, est-ce qu'il faut des expositions 100% femmes? La question qui peut se poser à travers cette question-là, c'est aussi ce qui est une pratique volontariste, c'est qui a cette volonté. C'est-à-dire qui propose ça et quel est le projet en fait. Est-ce que c'est un projet effectivement politique, féministe, ou si c'est encore un projet de faire remonter, de ramener ou de communication. Donc moi je suis d'accord avec Corinne. Hein, c'est effectivement il faut qu'on revienne à des œuvres et qu'on voit des choses et que c'est l'important, c'est quand même ce qu'on a sous les yeux. Bon, et aussi d'un point de vue politique, évidemment, aussi.
Attendant le retour de l'art, jouons un peu au jeu de la dispute avec Sarah Dion, qui nous rejoint comme à chaque fin d'émission, pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question d'hier était: à l'occasion de quel festival international la première de An Elephant Sitting Still a-t-elle eu lieu? Et la réponse est la Berlinale 2018.
Ce soir, des invitations à gagner pour aller voir le film Border d'Ali Abbasi qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question, Sarah?
Quel prix le film Border a-t-il remporté à l'occasion du dernier festival de Cannes?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter nos émissions et puis très facilement s'abonner au podcast de la dispute. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Elisabeth Philippe, Étienne Montetier, Laurent Nunez. À notre sommaire, Crack de Jean Rollin, Sérotonine de Michel Houellebecq, Antonia de Gabriela Zalapi et un coup de cœur signé Étienne Montetier pour La vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli.
France Culture, l'esprit d'ouverture.